Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h à Bunia et à Goma. Bienvenue dans votre journal sur Radio Okapi, présenté par Gisèle Cage. À la une de l'actualité, Ebola sur le front, la riposte monte en puissance. En Ituri, les autorités évaluent l'action des équipes et appellent à l'engagement collectif pour vaincre l'épidémie. Élection en RDC, alerte rouge sur le processus, manque de moyens, défis logistiques, insécurité. Denis Kadima, alerte sur le risque avant 2028. En vite du journal, mine du Sud Kivu, la grande controverse. Bienfait Fazili revient sur la suspension de 3 mois à Mwenga et Shabunda. Une décision qui inquiète, divise et fait monter la tension dans les communautés. Ebola sur le terrain, la riposte se renforce et se vérifie. À Bunia, en Ituri, le ministre de la Santé publique, Roger Nkamba, est allé évaluer l'efficacité des équipes déjà à pied d'œuvre dans la lutte contre l'épidémie. Accompagné du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, il a exprimé la solidarité du gouvernement envers les familles touchées, y compris les soignants en première ligne. Mais au-delà de cette présence, un message clé, la victoire contre Ebola passe aussi par l'engagement des communautés. Écoutons cet extrait de sa déclaration proposée par Martial Kizabiamungu.
J'étais ici il y a 9 jours. Et la riposte est en train de se déployer. Nous venons pour voir comment est-ce que se déploie, comment est-ce qu'on est efficace. Et pour l'instant, nous continuons d'abord à donner les chiffres de manière brute, de telle sorte que nous puissions retrouver tous les contacts et toutes les personnes qui présentent des symptômes. Nous avons perdu des médecins, nous avons perdu du personnel de santé de qualité. Nous venons d'abord surtout pour compatir et montrer que nous-mêmes, on est très engagés. Le président de la République nous a gardé dans une réunion hier pendant plus de 3 heures, vraiment sur cette question, pour que nous puissions nous assurer que tout ce qui doit être fait par un gouvernement est fait pour que nos populations ne soient pas seules. Dans toutes les épidémies, il y a toujours de la résistance communautaire. Les épidémies comme dans celle-ci, c'est vraiment la communication de risque et vraiment les engagements communautaires qui finissent par changer la perception et on voit toujours la confiance se bâtir progressivement.
Le ministre de la Santé publique, Roger Nkamba, au micro de Martial Kizabiamungu, et sur le terrain en Ituri, un signal fort, presque inattendu, l'espoir revient. La riposte contre Ebola vient de franchir un cap avec l'annonce du tout premier patient guéri de la maladie. Une guérison confirmée mercredi soir par l'Institut National de Santé publique. Le patient a été pris en charge à l'hôpital général de référence de Rwampara, près de Bunia, et a désormais quitté le centre de traitement déclaré guéri. Une annonce largement relayée qui pourrait bien changer la dynamique de cette épidémie. Pour les autorités sanitaires, c'est la preuve que la lutte commence à porter ses fruits. Écoutons donc cet extrait proposé par Martial Kizabiamungu.
Nous confirmons à l'ensemble de la population congolaise et mondiale que ce jour, nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guérie de ce virus. Dès la semaine, nous allons encore vous présenter d'autres guéris de façon solennelle. L'INSP, à travers le COUSP, a déployé les experts qui travaillent sur le terrain et qui sont en train de remettre les choses en ordre et qui inversent aujourd'hui la tendance. Au lieu de parler de décès, nous allons commencer à parler de guéris. Nous avons soigné à la zone de santé de Rwampara avec l'appui de notre partenaire Alima.
Une annonce accueillie avec soulagement et espoir par les acteurs sociopolitiques et la société civile. Tous saluent une avancée majeure dans la lutte contre Ebola. Mais au-delà de cette première victoire, un appel se fait entendre. Étendre sans délai ce protocole de traitement aux centaines d'autres malades. Car désormais, l'enjeu est clair, transformer ce premier cas de guérison en une vague de vie sauvée. Après l'espoir, la vigilance maximale. Au Nord Kivu, la menace Ebola s'étend et impose une riposte encore plus ferme. Après Butembo et Goma, le virus gagne du terrain dans les territoires de Beni. Les zones de santé d'Oicha et des Kalunguta viennent d'enregistrer leur premier cas confirmé. Face à cette progression inquiétante, les autorités haussent le ton. Le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule Somo, a annoncé ce mercredi à Beni une série de mesures strictes pour stopper la propagation de l'épidémie. On l'écoute dans cet extrait choisi par Martial Papimukeba.
Il est strictement interdit de circuler avec un corps sans vie, sans document signé par l'autorité sanitaire compétente. Pour le transport des personnes, chaque chauffeur doit embarquer les passagers à bord de son engin roulant en respectant la capacité d'accueil. Il en est de même des motards. N'est autorisé que le transport d'un seul passager sur chaque moto. À chaque point d'entrée ou point de contrôle, le débarquement de tous les passagers à bord de l'engin roulant est obligatoire pour le lavage des mains et le prélèvement des températures devant l'entrée de chaque bureau, boutique, alimentation, magasin, marché, église, mosquée, hôtel, restaurant, bistrot et un dispositif doit être placé pour faciliter le lavage des mains avant le contact avec les personnes. Les rencontres sportives sont momentanément suspendues. Les baptêmes par immersion dans les étangs, mares et autres eaux stagnantes et fermées sont temporairement suspendus. Il en est de même de l'exploitation des piscines publiques.
Et pendant que l'espoir prend forme, la vigilance reste de mise. En une dizaine de jours, 362 cas contact et 4 cas confirmés sont étroitement suivis par le comité médical basé à Goma, en Nord Kivu. Un bilan présenté mercredi à une délégation de l'Organisation mondiale de la santé en mission dans la région. Des chiffres qui couvrent Goma et Bukavu. Un cas confirmé à Goma, 3 autres dans la ville voisine. Preuve que les virus circulent encore et que chaque minute compte dans la riposte. Le point avec Bernard Nyangi.
Dans les détails, la coordination de la riposte Ebola Goma-Bukavu précise que sur les 362 cas contacts, 255 sont suivis à Goma contre 107 au sud Kivu. Concernant l'évolution des cas à Goma, l'unique patient confirmé est actuellement pris en charge dans un centre de traitement Ebola avec une évolution jugée encourageante. Un cas probable y est également suivi par les équipes médicales. À Bukavu, la situation montre une progression. Le nombre de cas confirmés est passé d'un à trois durant cette semaine. Par ailleurs, 62 échantillons ont déjà été envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale pour analyse. Ces prélèvements proviennent notamment de Bukavu et de cette zone de santé autour de Goma, dont seuls les 4 tests se sont révélés positifs à ce jour. S'agissant des cas contacts placés en quarantaine à Goma, leur situation évolue également. 38 personnes sont actuellement au 12e jour de suivi, tandis que 217 autres ont atteint le 21 jour. Selon la division provinciale de la santé, ces derniers pourraient être libérés dès ce jeudi, à condition de ne présenter aucun signe de la maladie.
Au-delà d'Ebola, d'autres habitudes préoccupantes pèsent sur la santé des populations. À Kananga, au Kasaï central, l'automédication gagne du terrain dans de nombreux ménages. Un réflexe face aux petits maux du quotidien, mais qui inquiète sérieusement les professionnels de santé. Sans diagnostic, sans suivi médical, les risques sont bien réels. Le médecin tire la sonnette d'alarme et appelle la population à consulter dès le premier symptôme pour éviter des complications par fois grave. Le point avec André Katende, Ngala Molomé.
Dans cette parcelle située sur l'avenue Mouika dans la commune d'Indécha, nous rencontrons Hélène Mujinga, mère de cet enfant. Elle affirme garder en permanence des médicaments à domicile. Selon elle, cela lui permet d'intervenir rapidement lorsqu'un membre de sa famille tombe malade.
Je garde les médicaments dans la maison parce qu'un enfant peut tomber malade, je lui donne. Je sais seulement que quand un enfant a la fièvre, je lui donne un paracétamol. C'est quand la situation devient grave qu'on va consulter le médecin.
À Kananga, plusieurs chefs de ménage s'adonnent également à l'automédication. Ambroise Mukendi, responsable de la section pharmacie à l'Institut d'enseignement médical IM Kananga, explique que l'usage de médicaments sans avis médical peut provoquer des intoxications et favoriser l'apparition d'autres maladies.
Il y a d'abord les mauvais diagnostics. Il peut prendre le médicament qui ont des effets secondaires. Autre danger, surdosage, retard des prises en charge médicale.
Il invite la population à éviter l'automédication et à consulter un médecin en cas de fièvre ou de tout autre problème de santé afin de bénéficier d'un traitement approprié. Tananga, André Katendengala Mulumé, Radio Kapi.
Place maintenant au défi des élections et aux réalités du terrain devant l'Assemblée nationale. La Commission électorale nationale indépendante a joué carte sur table ce mercredi face aux députés. Son président Denis Kadima a présenté le rapport annuel 2025-2026 de l'institution, finalement jugé recevable par la plénière. Un document qui revient sur les activités menées en 2025, mais surtout sur les préparatifs déjà engagés pour le prochain cycle électoral. Mais derrière cette validation, plusieurs défis majeurs ont été soulevés. Manque de financement pour soutenir les opérations, difficultés logistiques à déployer le matériel sur toute l'étendue du pays, insécurité persistante dans l'Est, autant d'obstacles qui pourraient peser lourd dans l'organisation des scrutins. Autre point sensible évoqué, la nécessité de réformer le système électoral avant 2028 pour renforcer la transparence et la crédibilité des élections. Les députés ont d'ailleurs insisté sur l'urgence de doter la CENI de moyens nécessaires et ce, à temps. En clair, sans anticipation ni ressources suffisantes, le processus électoral pourrait être fragilisé. Le point avec Grace Amzati, notre correspondant au Parlement.
Devant la représentation nationale, le président de la CENI a présenté les principales avancées, mais aussi les défis qui entourent encore le processus électoral en RDC. Denis Kadima a rappelé que la CENI a poursuivi certaines opérations du cycle électoral 2022-2027, notamment l'organisation des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces d'Ikwilu et du Nord Ubangi. Mais plusieurs scrutins locaux, comme ceux des bourgmestres, maires et conseillers urbains, n'ont pas pu être organisés faute de financement. Le président de la CENI a également insisté sur les difficultés qui compliquent l'organisation des élections en RDC, problèmes logistiques, insécurité persistante dans l'est du pays, vétusté des infrastructures électorales et irrégularité des financements. Le rapport évoque aussi plusieurs réformes envisagées avant les élections de 2028, parmi lesquelles l'élargissement de la participation des Congolais vivant à l'étranger, la prise en compte des déplacés internes, le renforcement des mécanismes biométriques ainsi que les dépôts électroniques des candidatures. La CENI propose également l'utilisation du centre électoral Bosolo pour renforcer la transparence dans la centralisation et la publication des résultats électoraux. Après les échanges, plusieurs députés ont plaidé pour un financement régulier de la CENI afin de garantir des élections crédibles et apaisées en RDC.
Après la politique, place aux réalités du quotidien. À Matadi, au Congo central, la gestion des déchets devient un véritable casse-tête pour les habitants. Collecte irrégulière, manque de décharges adaptées, les ménages peinent à évacuer leurs ordures correctement. Résultat, les déchets s'accumulent dans plusieurs quartiers et la colère monte parmi la population. Un problème d'assainissement qui interpelle et qui impacte directement le cadre de vie. Les détails dans ce reportage d'Élise Kavira.
Dans cette ville au relief rocheux, il est presque impossible de creuser des fosses pour enfouir des déchets biodégradables. Pour se débarrasser des immondices, les habitants doivent rester attentifs au passage des collecteurs des déchets qui circulent de manière irrégulière dans les quartiers. Gina Mavungu, mère de famille habitant au quartier Soyo, explique sa difficulté face à ces irrégularités.
Cette situation n'est pas facile, hein. Des fois, l'argent est là, les poubelles sont déjà pleines. Mais on peut passer toute une semaine. Les messieurs ne passent pas prendre les déchets. On doit seulement rester dans les odeurs comme ça.
Mais les collecteurs expliquent eux aussi leurs difficultés. Selon eux, le principal problème reste le manque d'un espace approprié pour décharger les déchets à proximité du centre-ville. Le seul site mis à leur disposition par les autorités urbaines se trouve au village d'Ibongo, situé à environ 4 km du centre de Matadi. C'est ce que rapporte l'un d'entre eux, Bobo Samu, collecteur bien connu dans le quartier Soyo.
Les déchets que vous voyez là, moi je ne peux pas aller avec ça jusqu'au dépotoir. C'est loin. Je dois payer les conducteurs du tricycle qui stationnent sur la chaussée plus haut. Mais eux aussi ne viennent pas tous les jours. C'est pourquoi il y a des jours où on ne passe pas.
Face à cette situation, de nombreux habitants appellent les autorités locales à renforcer le système de gestion des déchets afin d'améliorer l'assainissement et les conditions de vie dans la ville. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Un autre défi du quotidien, encore plus vital, l'eau. Dans la province de la Tchopo à Banalia, l'accès à l'eau potable reste un luxe rare. À 128 km de Kisangani, les habitants vivent sans aucune source d'eau propre à la consommation. La communauté ne dispose que de deux points d'eau non aménagés et faute d'alternative, beaucoup se tournent vers la rivière Aruwimi au risque de mettre leur santé en danger. Une réalité préoccupante qui expose toute une population. Le point avec Jacques Moukongolé.
Sur place à Banalia, la situation est insupportable pour les familles. Sans alternative, les ménagères sont les premières à constater les dégâts au quotidien. Écoutons ce témoignage poignant de l'une d'elles.
Vois comment l'eau est sale. En tout cas, ça nous préoccupe beaucoup parce que si l'eau n'est pas potable, ça va impacter négativement notre santé.
Une eau de fortune qui cache une véritable bombe à retardement sanitaire. Car consommer une telle eau expose directement la population a diverses maladies, dont celle d'origine hydrique. Les explications du docteur Amos Kikwatagild, spécialiste en santé publique de l'université de Kisangani.
Il y a par exemple les choléras, la fièvre typhoïde, il y a les gastro-entérites aiguës, il y a la dysenterie, il y a l'amibiase, ainsi de suite.
Face à ce péril, la société civile locale se tourne désormais vers les autorités politico-administratives pour exiger des sources d'eau potable aménagées. Ziko Kombozi interpelle les décideurs.
Nous demandons aux autorités politico-administratives de nous venir en aide. Nous nous souffrons, nous n'avons pas à boire au niveau du territoire de Banalia.
Pour l'heure, aucun projet n'est en cours, déclare Gilbert Akwamba, administrateur du territoire de Banalia. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Liban, au moins 14 personnes ont été tuées jeudi dans des frappes israéliennes dans le sud du pays. Des bombardements qui interviennent alors qu'un cessez-le-feu est censé être en vigueur depuis le 17 avril, mais qui reste largement fragile sur le terrain. Israël affirme avoir élargi sa zone de combat contre le Hezbollah. L'armée israélienne indique également avoir mené une frappe ciblée à proximité de Beyrouth. Et selon une source militaire libanaise, un appartement situé en bordure de la banlieue sud de la capitale, le fief du Hezbollah, a été visé. Aucun bilan n'était encore disponible. C'est la deuxième frappe israélienne près donc de Beyrouth depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, un accord qui peine à être respecté. Des nouvelles tensions surviennent à la veille d'une réunion militaire prévue à Washington entre le Liban et Israël avant une nouvelle série des négociations annoncées pour les 2 et 3 juin. Les dossiers libanais s'invitent également dans les discussions en cours entre les États-Unis et l'Iran.
L'invité.
Place maintenant à notre invité pour éclairer l'actualité. Direction le Sud Kivu, où la suspension des activités minières continue de susciter de réactions contrastées au sein des communautés locales. Pour en parler, nous recevons Bienfait Fazili, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile en chefferie des Wamuzimu. Il revient sur l'arrêté du ministre de Mines qui suspend pour 3 mois les activités minières dans les territoires de Mwenga et Chabou. Et sur ses répercussions sur le terrain. Bienfait Fazili est au micro de Jean Kassami. Suivez.
Monsieur Fazili Mulonda, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Depuis la prise de l'arrêté ministériel du 22 mai 2026, interdisant ou disons bien suspendant les activités minières dans les territoires de Mwenga et Chabunda, est-ce que les travaux des creuseurs artisanaux se poursuivent?
Les activités minières, depuis l'avènement de cet arrêté, sont paralysées partout en territoire de Mwenga, mais il faut une évaluation sérieuse pour en savoir davantage. L'arrêté porte à suspension pour 3 mois des activités minières dans les territoires de Mwenga et Chabunda a été accueilli avec joie par une partie de la population, mais aussi avec regret par les autres, notamment les entreprises minières à capitaux étrangers, ainsi que les coopératives minières, sans écarter les creusés artisanaux qui ne dépendent que de ces activités minières.
Qu'est-ce que vous redoutez en termes de retombées négatives sur la vie quotidienne de la population de ces deux entités où l'exploitation des minerais vient d'être suspendue?
Cet arrêté, partant de son opacité sur la vraie cible, affecte négativement les artisanaux et la vie de la population, comme il ne spécifie pas le vrai concerné de cette décision du ministre. Alors qu'en territoire de Mwenga et dans la ville de Kamituga, il n'y a pas de vie sans activité minière. Une fois cet arrêté resté général, va affecter négativement sur les conditions de la vie socio-économique et sécuritaire de la population du territoire de Mwenga, pourtant déjà vulnérable avec la guerre et les barrières payantes, la circulation de l'argent sera amoindrie.
Y a-t-il parmi ces conséquences celles qui sont déjà visibles aujourd'hui au sein de la communauté?
Dès que l'arrêté a été lu aux chaînes des radios locales ici, en territoire de Mwenga directement, le prix des produits de première nécessité a été revu à la hausse et les vols de produits agricoles commencent à être enregistrés dans les champs des paysans. C'est pourquoi nous pensons que la mesure prise par le ministre des Mines serait plausible si elle ciblerait les exploitants miniers, spécialement les sociétés à capitaux étrangers et les coopératives minières qui les couvrent ici. Malheureusement, l'arrêté de son Excellence, Monsieur le ministre, n'a rien spécifié. Ce qui choque, c'est de voir même les artisanaux deviennent des victimes, pourtant ne dépendent que de ça comme activité quotidienne pour leur servir.
Est-ce que les raisons évoquées par le ministre des Mines en prenant cette décision vous paraissent plausibles?
Nous avons salué l'initiative au sein du cadre de consultation de la société civile en territoire de Mwenga, mais pour que l'inquiétude soit assouvie, il est impérieux que le ministre émette l'annexe de cet arrêté qui, à principe, doit écarter les artisanaux de ces entreprises étrangères. Nous voulons en plus voir que la commission qui sera sur terrain à Mwenga pour évaluer sur la question soit mixte sans écarter la société civile et que cette fois-ci les recommandations du rapport de mission qui sera produit soient mises en application au lieu de rester de l'œuvre morte dans des tiroirs à Kinshasa comme celle de la législation passée qui n'a fait que dilapider l'argent du gouvernement et se faire soudoyer par les miniers et avant la mission a été égal après la mission.
Et qu'est-ce que vous proposez au ministre qu'il faille faire pour que son inquiétude également soit assouvie et que la vie de la population ne soit pas aussi compromise?
Que le gouvernement, s'il n'est pas complice vraiment, sauve la mine du territoire de Mwenga, ce n'est pas normal. Avec ces minéraux, pas d'eau, ni courant, toujours en insécurité, zéro route.
Merci, monsieur.
C'était Bienfait Fazili, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile en chefferie des Wamuzimu au Sud Kivu. Il réagissait à la décision du ministre de Mines de suspendre pour 3 mois les activités minières dans les territoires de Mwenga et Shabunda. Une mesure d'ailleurs qui continue de diviser les communautés locales. C'était la grande édition de 18h sur Radio Okapi. À la présentation, Gisèle Cage. La mise en onde assurée par Jean-Claude Nsiala, la coordination Jean-Désiré Kanyama, la supervision Alain Hirung. Merci de votre fidélité. L'information continue sur nos plateformes numériques. Ce journal est à réécouter en podcast sur notre site www.radiocapi.net. Rendez-vous donc à 19h pour le dernier bulletin d'information de la journée. D'ici là, portez-vous bien et très bonne soirée chez vous.